Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 89. Le bébé tombé, le resto démonté et le futur de l'humanité. Chers amis, bonjour. Alors, la deuxième et la troisième histoire de cet épisode seront plutôt rigolotes. Le restaurant du Burizel démonté et science-fiction, Aubernais, ville touristique mondiale, étape vers la planète Mars. Mais la première histoire est dramatique. Alors, vous connaissez la formule que les cinéphiles adorent répéter pour choquer leurs amis ayant de grandes familles. La formule dit « Un homme qui déteste les enfants et les chiens ne peut pas être tout à fait mauvais. » Alors, c'est de C.W. Fields qui n'avait pas de préjugés parce qu'il détestait tout le monde. Bon, c'est drôle, jusqu'au jour où vous-même, vous avez des enfants. Et là, on devient un papa gâteau. Et je vous assure que je connais le scénario. Alors, bonjour, bonjour mes enfants. Comme toujours, un seul disque pour accompagner ces trois histoires. Et aujourd'hui, un seul nom. Et vous allez pleurer. Tiens, quand la musique va commencer, après la triste histoire que voici, mettez vraiment la radio à fond, mais vraiment très très fort. Et vous allez être surpris et vous allez adorer, et vos voisins aussi. Donc, vous mettez la radio très fort pour un seul nom, la calasse. Première histoire, la malédiction de la bruche, l'affaire du petit bébé tombé de haut. C'est un peu comme l'affaire Grégory, mais à Mulbach-sur-Bruche. Un petit garçon est mort, il avait 3 mois, et tout le village s'est retrouvé la proie de la presse à sensation. Il n'avait pas été assassiné, noyé dans la bruche, mais la mort de ce garçon fut tout aussi dramatique. On écrivit aussi une mort tout aussi sensationnelle. Les parents du bébé sont tous deux des journalistes connus, lui à Paris, elle à Strasbourg. Dès qu'ils réussissent à prendre quelques jours de congé en même temps, ils se retrouvent dans cette maison familiale de la vallée de la Bruche, une vieille bâtisse qu'ils ont envie de retaper. Ce samedi soir, ils doivent se rendre à une cérémonie officielle au Conseil de l'Europe, une bonne demi-heure de voiture. Ils demandent donc à la jeune fille de leur voisin de passer la soirée chez eux pour garder le bébé. Ils la connaissent bien et elle est toute contente de ces quelques heures de babysitting. Un biberon est prêt en cas de pleurs et elle sait comment faire. Lorsque les parents rentrent, le bébé dort, tout va bien, la jeune fille part chez elle. Mais dans la nuit, quelque chose de bizarre. Le bébé ne cesse de vomir, il a une respiration hoquetée, il s'endort et se réveille brusquement, il pleure comme il souffrait. Le matin, dans les bras de ses parents, le bébé est amorphe, coup de fil à un copain médecin qui recommande d'aller aux urgences à l'hôpital. En voulant changer la couche du bébé, la maman s'aperçoit qu'elle est mal mise. Il a une couche sale dans la petite poubelle de la salle de bain. C'est la petite voisine qui a dû lui mettre une pampers neuve, propre. À l'arrivée à l'hôpital, tout va très vite. Le bébé est bleu. Il est mis sous réanimation intensive. Il meurt. Que s'est-il passé? Le médecin qui constate le décès retient l'obstacle médico-légal et demande donc la conservation du corps. Un premier examen, qui sera confirmé par une IRM, indique un choc très violent, éventuel point de départ d'une enquête criminelle. Les parents sont de fait soupçonnés. Mais tout de suite, on comprend. La jeune fille, en changeant le bébé, l'a posé sur la table de la salle de bain. Elle a ensuite cherché une couche. Le bébé a bougé et il est tombé. Il ne pleurait pas. Elle n'a rien dit, de peur de se faire gronder. Accident, négligence, ce fait divers de société emballe les collègues des parents atterrés. Avant même les conclusions de l'instruction, le procès médiatique va bon train. Chronique d'une négligence ordinaire. La mort quotidienne des petits innocents. Plus de 50 journalistes au cimetière. Le bébé de la Bruche devient l'un des 100 feuilletons de la presse à sensation. On fustige l'irresponsabilité de la mère et la nonchalance du père et l'on décrit les voisins frustreux. Et si elle l'avait dit tout de suite, le bébé aurait-il été sauvé? 3 spécialistes répondent. Édition spéciale. Plainte contre la jeune voisine. Est-elle responsable? La justice en marche avec un maître du barreau. Le battage des mots veut un coupable. Le choc des photos veut la douleur. 30 années plus tard, j'ai revu le couple, hein, c'était des amis journalistes. Le chagrin est toujours là. Et mon ami m'a dit tendrement, quand on lange un bébé, on met le coussin par terre, sur le plancher. Maria Callas, Casta Diva, Maria Callas, le premier air de l'opéra Norma de Bellini, mais les sopranos adorent le chanter seul, sans le Se divi aut si voci qui précède Casta Diva, ni le A bello ame ritorna qui lui succède. Donc, interprété par la Callas, Maria Callas, on a le droit de pleurer en l'écoutant, pas par tristesse, mais c'est juste par vénération du sublime. Bon, pour casser l'ambiance, vous connaissez l'histoire de Castadiva ? C'est un petit peu Falbala et Assurance Tourix que dans Astérix, une jeune prêtresse gauloise qui doit affronter les Romains. Mais heureusement, personne ne comprend les paroles. Alors, deuxième récit, nous sommes à la fin du siècle dernier. Strasbourg est une belle ville allemande et rien n'est trop beau pour montrer au monde entier les splendeurs alsaciennes sur Radio Judaïka Strasbourg. Vous l'avez bien connu. L'orangerie et le Burisel de retour à Molsheim. Alors c'est tout d'abord une histoire de jalousie. Pourquoi pas nous ? Pourquoi à Strasbourg ils ont une orangerie alors que nous, un peu plus au sud de Molsheim, il fait bien plus beau ? On a du soleil, nous ! Nous sommes en 1894 et l'an prochain se tiendra l'exposition d'industrie et d'artisanat, devant réunir 1250 exposants dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg, donc l'exposition d'industrie et d'artisanat. Alors ces messieurs du comité veulent briller, faire du somptueux, étonner les visiteurs. Ils ont repéré une magnifique maison à colombage, la maison Schwartz, qu'ils aimeraient bien transporter de Molsheim à Strasbourg pour en faire un restaurant de prestige, le Burisel. Dans le parc, il y a une serre abritant 138 orangers confisqués au château de Buxwiller après la Révolution. Alors les édiles de Molsheim proposent un marché. La maison contre les orangers. Ce serait le début de la fortune en instaurant une tradition, celle d'offrir à Noël une orange à tous les enfants alsaciens. L'orange de Noël dans chaque famille. Et chez les pauvres, il n'y aurait rien d'autre, mais des années plus tard, on se souviendrait encore de cette merveille pour fustiger les trop-pleins de cadeaux aux enfants gâtés. Alors vous savez que Balzac aura la même idée en voulant cultiver des ananas à Paris. Il a perdu toute sa fortune. Et puis à Paris également, l'exposition universelle suivante, ils ont eu aussi l'idée d'un monument de prestige qui va s'appeler la Tour Eiffel. Alors, les oranges Molsheim deviendraient le symbole d'une Alsace audacieuse et florissante. Pour respecter la tradition, on imagina tout de suite la recette du rôti de cigogne à l'orange sur son lit de choucroute. Les bredeler ronds, en forme de mini-orange, et le Gewürztraminer Spritz légèrement coupé au jus d'orange. Il fallait trouver un grand terrain bien exposé au soleil, tout au sud. Il y avait un bel endroit rue du Château Saint-Jean, à l'angle de la rue de Genzig. Pour passer l'hiver, on emmitouflerait les orangers dans des serres et on protégerait les racines sous des couches alternées de feuilles et de fumier. Un accord fut conclu. On connaît la suite de l'histoire. La maison fut effectivement démontée, pierre par pierre, et reconstruite dans le parc à Strasbourg. Mais cet hiver-là fut particulièrement rigoureux et fatal pour les orangers strasbourgeois. Les édiles de Molsheim, inconsolablement lésés, décidèrent d'imposer, sans jamais débourser un sou, leur banquet annuel au Burisel. Et promesse leur fut faite de ramener un jour la maison à colombage et de la remonter au bord de la Bruche. Ce sera peut-être en 2025 pour les 130 ans de son premier déménagement. Maria Callas, la diva dans Casta Diva de Bellini, avec l'orchestre de la Scala de Milan en avril 1954. Troisième histoire de cet épisode 89 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca à Strasbourg. On fait un petit bond en avant, qui sera un grand saut pour l'humanité. Nous sommes en 2080 et l'on se souvient de l'année 2030 en Alsace. Alors j'ai un peu pensé au film Soleil Green qui n'avait pas mal impressionné en 1973. J'étais déjà un cinéphile farouche. Ce film Soleil Vert raconte que dans 50 ans, et donc en 2022, l'effet de serre sera tel que les humains mourront de faim et Charlton Heston accepte d'être une sorte de cobaye pour une nouvelle nourriture mise au point par les écolos du coin. Troisième histoire, autre clin d'œil de cinéphile dans le titre, les parapluies de Cherbourg à Auberney City. C'était donc en 2030, dans les faubourgs d'Auberney City, il y a 50 ans. Les usines de plaquettes énergisées alimentaires produisaient la nutritivité d'espérance 120. Alors, 120 ans, au-delà, il fallait décrocher. Pour la zone 113, c'était un carré de 50 x 50 km. Et c'était notre zone 113, et c'était la plus productive de l'hémisphère. À 3 km à vol de Drôme H, alors H pour humain, on pouvait visiter la sympathique réserve de Strasbourg-Ville-Âgée, calquée sur le village d'Astérix Historix. L'ellipse insulaire était inscrite au patrimoine mondial de l'unité de nettoyage ethnologique et de sauvegarde des catégories oubliées, l'UNESCO, hein, donc unité de nettoyage ethnologique et de sauvegarde des catégories oubliées, tout comme les bécasses de Notre-Dame-des-Landes, l'arbre unique d'Amazonie ou le glaçon préservé du Groenland. Dans ces zones à potentiel nostalgique, on soignait les crises d'amertume par des séances de retour aux Madeleines, appellation touristique de sécure thérapeutique sédative et antalgique prescrite par l'échelon de protection, c'était le nouveau nom de la sécurité sociale. Depuis Auberney City, on réservait un séjour abracadabrant très chic à Strasbourg-Villager pour les jours pairs, banquet alsacien avec tartiflette, raclette et champagne frappé, et pour les jours impairs, menu Grand Est avec carottes biologiques, riz complet et hamster grillé. Ce programme attirait des milliers de touristus mundus qui logeaient dans les hôtelus dormitorus d'Auberney City, assurant la prospérité de la population locale. Au vieux village au Cherbourg d'Auberney City, on proposait aussi des excursions dans les usines robotisées. Et l'office du tourisme offrait d'insolites et obsolètes cadeaux. Des boules de neige, des parapluies et des crucifix qui amusaient beaucoup les visiteurs depuis que le réchauffement climatique avait éradiqué les hivers, les nuages et les religions. Maintenant que les pays n'existaient plus et que la boule terre était divisée en carrés, Auberney City était devenue une destination aussi populaire que Planète Mars.
Thank you.
Moi, ça me fait pleurer de bonheur. Madame Maria Anna Cecilia Sofia Kalégeropoulos, dans le premier air de Norma de Bellini. La semaine prochaine, épisode 90, alors 90, faire du vieux avec du neuf, nonagénaire, nous rendrons un discret hommage à Baudelaire dans une filature de Schirmeck, nous rendrons hommage à Bertolt Brecht en racontant et en rencontrant deux rescapés de Verdun vivant dans le même village, mais l'un était dans l'armée française et l'autre dans l'armée du Kaiser. Et troisième histoire que vous pouvez relire sur mon blog AFP, Amboise Fiction Presse, sur Internet. Une superbe histoire de vengeance quand une dame, après 25 ans de mariage, voit son petit mari s'enfuir avec une nouvelle, bien plus jeune, et qui lui dit « Ah, j'aimerais bien divorcer ». Voilà, vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli et mon nom que j'ai hérité de la Scala de Milan et de Maria Callas, Ambrogio Perrin.
Two fellows meet, like you and I. No connection between...